Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes le 6 décembre 2023 et durant les trois semaines qui suivent chaque mercredi après-midi, ce sont des étudiants et des étudiantes de l'UTC qui seront à l'antenne pour la matière, comme on l'a dit dans l'intro, WE01. Alors WE01, c'est une matière qui étudie le fonctionnement du numérique et du web, question très actuelle puisque le numérique est omniprésent dans nos vies, dans nos poches, dans nos villes, dans nos gouvernements. Cette explosion des outils numériques pose bien évidemment des questions éthiques, sociales, environnementales et tant d'autres. Alors, pour circonscrire un peu le problème, pendant tout le semestre, les étudiants et les étudiantes de WE1 se sont partagés le travail et ont chacun travaillé sur une problématique d'actualité en rapport avec le numérique et vous restitue en cette belle fin d'après-midi le résultat de leur enquête. Je m'appelle Quentin et je suis accompagné pour cette émission de Rémi, Caillot, Arthur et Jacquiane. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, votre sujet était intitulé « Web et extractivisme ». La problématique que je vous avais donnée était « Le web tel qu'on le connaît est-il viable ?» Alors, c'est quand même un sujet incroyablement vaste. C'est pour ça que vous avez été deux groupes à travailler dessus. Et pour nous expliquer un peu l'angle d'attaque que vous avez choisi, je passe la parole à Rémi pour introduire le sujet.
Bonjour à tous, merci à Graphite pour l'invitation. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler des enjeux écologiques actuels, le réchauffement climatique engendré par la pollution humaine, les rejets de CO2 dans l'atmosphère et tutti quanti. Cependant, un facteur important est trop peu cité. En dehors de l'aviation, du trafic routier ou de l'élevage bovin, le web se présente comme l'une des principales entités consommatrices d'électricité et source d'une forte production de CO2. On parle tout de même de près de 10% de la consommation électrique mondiale, ainsi que de 4% des rejets de CO2. C'est le double de ceux du trafic aérien dont on parle tant. Ce sont des données issues du livre « L'enfer numérique, voyage au bout d'un like » de Guillaume Pitron, un journaliste français et spécialiste de la géopolitique des matières premières. Alors on peut se demander d'où proviennent ces émissions et ainsi comment pouvons-nous atténuer l'impact environnemental du web tout en maintenant notre dépendance numérique. Finalement, comment concilier l'essor du web et les impératifs écologiques actuels? Alors, premièrement, quelques définitions pour que l'on sache tous de quoi on parle. Tout d'abord, faisons bien la différence entre le web, qui est constitué de l'ensemble des données stockées sur les serveurs web, et Internet, qui permet de faire le lien entre nos ordinateurs et ces serveurs. Internet, c'est donc une immense toile qui nous permet d'utiliser le web. Ensuite, parlons rapidement de ce qu'est l'extractivisme. Il s'agit de l'exploitation massive des ressources de la nature, le plus souvent très peu transformées et destinées à l'export, dans le but d'accumuler de la richesse. L'extractivisme appliqué au web, c'est donc l'exploitation de l'ensemble des ressources nécessaires à son bon fonctionnement. Il faut prendre conscience qu'à l'heure actuelle, le web est très centralisé. Nous connaissons tous les GAFAM, ces 5 entreprises, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui ont à elles seules un monopole parfois inquiétant de nos activités sur le web. Ce monopole leur demande toujours plus de puissance et de stockage pour rester à la pointe. C'est de cette nécessité que naissent et continuent de grandir leurs méga serveurs, ces fameuses tours collées les unes aux autres dans de grands hangars et qui ne sont ni plus ni moins que des ordinateurs en fonction 24 heures sur 24.
Eh ben oui, merci de nous rappeler ça, Rémi. On connaît, certains et certaines ont peut-être déjà entendu la phrase « Finalement, il n'y a pas de cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre ». Et pour continuer, Caillot va prendre la main. Tu as parlé de ces fameuses ressources nécessaires pour construire les ordinateurs. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous ont déjà entendu parler de terres rares ou de métaux rares, tout ce qu'on peut trouver dans les batteries, processeurs et autres objets électroniques. Donc Caillot, c'est à toi.
Je suis content. Donc, avec les concepts établis, nous pouvons comprendre l'origine et les impacts environnementaux résultant de l'utilisation d'Internet. Les principaux impacts sont liés aux émissions de carbone, résultant de la consommation élevée d'énergie par les entreprises web pour maintenir leurs serveurs en ligne, assurer le refroidissement et garantir un fonctionnement continu des installations. De plus, il existe des facteurs moins évidents tels que l'électricité consommée dans la fabrication des composants des serveurs, les processus d'extraction et de raffinage des matériaux pro, distribution et même les déplacements des employés. Nous allons écouter un extrait audio de Monsieur Bidul, l'Internet et le climat, ça tourne mal, qui aborde l'ensemble du CO2 émis par l'industrie d'Internet, des télécommunications, des réseaux et des appareils des utilisateurs, qui, dans cet extrait, est possible de comprendre la magnitude de la production des gaz à effet de serre que le web contribue de manière générale, qui compte de la production directe ou indirecte de cette production. Cependant, mesurer cela avec précision serait très complexe. Est-il existe des variations entre différentes sources bibliographiques?
Alors pour préciser, hein, Monsieur Bidouille, peut-être que certains et certaines connaissent, mais c'est un vidéaste donc sur YouTube assez spécialisé dans les questions d'énergie, de nouvelles technologies et tout ça. Donc voilà un peu d'où sort cet extrait et c'est parti.
La partie qui émet le plus de gaz à effet de serre, c'est les appareils des utilisateurs. Alors attention, quand on parle d'appareils utilisateurs, c'est aussi bien dans un cadre privé que professionnel. C'est aussi le PC de Jean-Guy de la Compta, et ça prend en compte aussi les objets connectés. Si c'est le plus gros de la consommation, c'est parce que l'utilisation n'est pas optimisée, tout simplement. Quand nous utilisons un ordinateur, plus un écran pour aller voir quelques mails, un serveur mettra à profit la même quantité d'énergie pour traiter beaucoup plus d'informations. Si on rassemble tous ces secteurs, on obtient des émissions totales de l'ordre de 420 millions de tonnes pour les médias et 730 pour les technologies de communication et d'information. Le tout pour un grand total de 1150 millions de tonnes d'équivalent CO2 tout cumulé, soit 2,5 fois les émissions de CO2 de la France métropolitaine hors importation et environ 2,8% des émissions de CO2 mondiales.
Pour l'extraction de matériel, une publication de 2018 rédigée par Andrew Wheeler, professionnel d'informatique, révèle que la production d'un ordinateur nécessite environ 50 éléments sur un total d'un peu plus de 100 de le tableau périodique. Cela signifie que de nombreux matériaux essentiels à la construction des ordinateurs sont considérés comme rares. L'extraction de ces minéraux implique souvent des pratiques agressives pour l'environnement près des mines, entraînant la dégradation du sol, des aquifères, des sources d'eau et des écosystèmes locaux. De plus, la fabrication des composants électroniques pour les serveurs et ordinateurs nécessite une quantité importante de ressources. Selon une étude de United Nations University en 2004, plus de 1,8 tonnes de matériaux est nécessaire pour construire un ordinateur, comprenant au moins 1500 kg d'eau, 22 kg de produits chimiques, 240 kg de combustibles fossiles. Ainsi, lorsque de grandes entreprises doivent construire ou mettre à jour leurs centres de données, qui peuvent atteindre des milliards en nombre, l'ampleur du problème devient évidente. Il est important de souligner que, malgré la croissance notable des centres de données, la contribution la plus significative à la consommation des ressources minéraires provient des utilisateurs individuels, représentant 76% par rapport aux centres de données et l'infrastructure des réseaux, selon les rapports de Green IT de 2019. Très probablement par rapport à l'augmentation de production des appareils individuels, comme les smartphones, tablettes, télé, objets connectés, etc. Et aussi, cet appareil il y a une durée de vie inférieure. Pour finir, il est évident que le web a un impact significatif sur notre environnement. Chaque vidéo, chaque fichier sur cloud, chaque clic sur un site, chaque communication et transaction en ligne contribuent à la production de gaz à effet de serre et à la dégradation de l'environnement, qui est complexe à comprendre et mesurer entièrement. Il est donc crucial de prendre conscience de ces contributions négatives et de réfléchir à notre utilisation.
Merci Caillot, merci Graphite. Donc face à la grandeur des impacts écologiques du web cité précédemment, vous devez sûrement vous demander comment pouvons-nous transitionner le web vers un secteur plus vert. Et pour cela, nous allons introduire trois chemins complémentaires. explorant l'aspect matériel et technologique de la crise en vue de proposer les changements, tant individuels que collectifs, nécessaires pour rendre notre quotidien numérique plus sobre et réduire sa dépendance à l'extractivisme. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Arthur et je vous propose aujourd'hui quelques habitudes que vous pouvez prendre pour limiter l'extraction de ressources liées à votre utilisation numérique. Il est tout d'abord crucial de conserver vos appareils le plus longtemps possible. Mais lorsque le remplacement est cependant nécessaire, optez plutôt pour des dispositifs à entretien facile, réduisant ainsi votre dépendance à une main-d'œuvre hautement spécialisée. Un exemple concret est le Fairphone, un téléphone entièrement démontable, et ce, par n'importe qui. Bien que la plateforme Beck Market propose des dispositifs reconditionnés, elle encourage toujours la dépendance à la surpuissance fournie par les appareils d'Apple, Samsung, Google et bien d'autres. Je vous invite donc à vous interroger sur la réelle nécessité du dernier iPhone, surtout si les opérations numériques sont pour la grande majorité souvent très simples. Mais la différence la plus significative réside dans l'utilisation de moteurs de recherche verts. Bien que Lilo ou Ecosia se déclarent comme tels, ils restent encore dépendants du système publicitaire excessif, entraînant un extractivisme d'informations et limitant leur sobriété énergétique. La nécessité de stocker d'énormes données personnelles génère des serveurs massifs et puissants, contribuant à la consommation de ressources naturelles. D'autres moteurs, tels que Niva, rompent totalement avec le modèle accès-annonceur, sans publicité ni exploitation de données. Bon, bien qu'ils sont payants, ils réduisent considérablement, et j'insiste sur le considérablement, l'impact sur la consommation de ressources rares, car ils ne dépendent désormais pas du stockage massif de ces données privées. Mais outre les changements individuels, les plateformes que nous connaissons sont aussi de grandes consommatrices de ressources. YouTube, Facebook, Instagram, tous ces sites pourraient être beaucoup plus sobres. En oubliant ce qui tourne autour de la publicité ciblée et de la collecte de données, le Low Tech Lab, une association travaillant sur la sobriété technique, propose trois principes fondamentaux pour qu'un site web soit moins dépendant de l'extractivisme. En suivant ces principes, le numérique doit tout d'abord devenir durable. Et pour cela, il faut réfléchir au cycle de vie entier des composants assurant son maintien, c'est-à-dire de leur fabrication jusqu'à leur seconde vie. Il devient alors durable lorsque l'hébergement de celui-ci utilise un matériel réparable ou réparé, installé dans les locaux ou bien dans un hébergeur vert. D'un autre côté, l'information qui y figure doit être utile. Il est crucial de réduire les plugins ou les fonctionnalités de mise en page inutiles, comme les vidéos, et d'opter pour un design minimaliste. Vous comprenez sans doute que cela s'éloigne clairement du fonctionnement des géants du numérique. Tous en concurrence entre eux, ils rendent leurs produits et leurs sites riches en fonctionnalités sans considération pour l'extraction de minerais comme une barrière. Finalement, il faut que le web devienne accessible. Lorsque les géants limiteront les ressources des dispositifs et l'information de leurs sites, ils permettront donc une connexion indépendante de l'âge ou de la condition de l'appareil utilisé. De plus, tout le marché de dispositifs du numérique pourrait s'inspirer du modèle de Fairphone que j'ai parlé précédemment, mais cela n'inciterait donc plus au changement excessif d'appareils, réduisant le temps précieux chiffre d'affaires de ces entreprises. Tous ces changements peuvent vous paraître dystopiques, mais c'est tout à fait possible. Illustrons tout cela avec l'exemple de Kairos.
Ici, à Concarneau, l'entreprise Kairos a éco-conçu son site internet et l'héberge dans ses locaux.
Chez Kairos, on fait de la gestion de projets sportifs course au large et on fait de la recherche sur les biomatériaux. Alors, pour créer un site éco-conçu, on réfléchit à l'utilité des informations que l'on va donner sur ce site, le poids des photos, le poids des images, le graphisme. L'idée, c'est de pouvoir avoir un site qui consomme le moins possible tout en étant esthétiquement agréable pour les usagers. Mais on s'est posé la question de l'hébergement de notre site et nous, on a décidé de l'héberger chez nous. Il est là, notre petit site internet. C'est un petit ordi de quelques dizaines d'euros. Il marche très bien.
Alors, le second plan sur lequel il est nécessaire d'agir est le plan politique. Les gouvernements pourraient s'engager dans des politiques régulatrices innovantes, par exemple, qui visent à réduire la dépendance des technologies numériques vis-à-vis des ressources naturelles et de l'énergie. Une approche essentielle consisterait à élaborer des cadres législatifs contraignants qui encouragent les entreprises technologiques à adopter des pratiques durables et surtout à être plus strictes sur la vérification de l'application de ces pratiques. En effet, certaines entreprises ou régions arrivent à outrepasser les régulations nationales en vigueur, comme c'est le cas en Chine, avec l'extraction du graphite à l'origine de bien des troubles, notamment sur la santé des mineurs et sur la faune environnante. En dehors des obligations, les actions des États pourraient inclure des incitations fiscales pour les entreprises qui intègrent des technologies éco-énergétiques et qui adoptent des modèles économiques circulaires, favorisant ainsi la réutilisation et le recyclage des équipements électroniques. Parallèlement, une coopération internationale accrue semble indispensable. Les pays pourraient collaborer pour établir des normes mondiales en matière de durabilité numérique et encourager l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement à l'échelle mondiale. Les accords internationaux contraignants peuvent être mis en place pour garantir que les entreprises opérant à l'échelle mondiale respectent des normes environnementales strictes, tout en évitant le transfert de problèmes environnementaux d'un pays à l'autre, tel qu'on peut le voir actuellement avec l'envoi de déchets en provenance de l'Europe vers la Turquie, et ce, par millions de tonnes. En outre, les gouvernements pourraient investir massivement dans la recherche et le développement de technologies numériques moins énergivores, ainsi que dans des sources d'énergie alternatives et renouvelables. En favorisant l'innovation dans ces domaines, on peut penser que les États pourraient contribuer à réduire la consommation énergétique liée au web, tout en stimulant la croissance d'une économie verte, même si de cela n'est moins sûr, si rien de cela n'est moins sûr.
Oui, alors Rémi, tu m'as demandé de placer un petit point là-dessus. Effectivement, c'est un vieux serpent de mer de ce discours qui est assez médiatique, comme quoi on pourrait essayer d'investir, de trouver une technologie qui consomme le moins de ressources possible, que ce soit au niveau matériel ou au niveau calculatoire. On promet monts et merveilles de l'informatique quantique qui pourrait nous permettre de faire vraiment énormément de calculs avec très très peu de ressources, pourquoi pas. Enfin, on peut imaginer plein de choses autour de ça, mais il est du coup bon de se rappeler, ça rejoint la question de Nicolas dans le chat, merci à toi, qu'on va un peu traiter maintenant, qui est que toutes les fois où on s'est dit que diminuer ou augmenter plutôt le rendement, faire en sorte que un produit ou un service soit moins consommateur de ressources, et bah paradoxalement, c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet rebond ou le paradoxe de Jevons, paradoxalement, son utilisation augmente et on se retrouve finalement à consommer autant, si ce n'est plus de ressources qu'avant. Alors des exemples très concrets, l'exemple un peu qu'on prend tout le temps, c'est celui du moteur thermique. Le moteur thermique, en 40 ou 50 ans, eh bien, il me semble qu'il a, alors là c'est un chiffre, je ne m'en rappelle plus du tout, je ne l'ai pas vérifié, je vous invite à le faire vous-même, mais il a dû gagner 40% en rendement, donc il consommait 40% de moins. Donc on pourrait s'attendre à ce que, globalement, l'impact, alors uniquement sur la pollution instantanée des voitures soit moindre. Et en fait, on se rend bien compte que, parallèlement à ça, la taille, le poids des voitures ont augmenté, la quantité d'électronique dedans aussi, tout le contexte social qui fait qu'on incite les gens à acheter beaucoup de voitures et le fait qu'on se dise que ça pollue moins et que ça consomme moins fait qu'on en a plus. Enfin voilà. Donc un autre exemple typique, c'est celui de la 5G qui a fait beaucoup débat, où il y a beaucoup d'universitaires qui ont travaillé pour faire en sorte que la 5G pour un kilo-octet transféré soit beaucoup moins consommatrice que la 4G, mais du coup, conséquence, on en a déployé partout pour pouvoir faire advenir le monde des objets connectés, etc. etc. Donc voilà, juste pour rappeler ce petit, ce point d'attention à chaque fois que on promet une technologie moins consommatrice pour réduire l'empreinte globale, attention à l'effet rebond qui n'est jamais bien loin, et je te redonne la main, Rémi.
Effectivement. Alors comme Arthur en a parlé tout à l'heure, une voie possible pourrait être de favoriser le développement des low-tech et bien d'autres technologies, mais en finalité, rien n'est moins sûr. Sinon, un autre point à aborder serait l'éducation, qui pourrait être repensée pour sensibiliser les populations aux enjeux environnementaux liés à la technologie. Les programmes d'éducation devraient intégrer des enseignements sur la consommation responsable, par exemple, la gestion des déchets électroniques et les alternatives durables aux pratiques numériques courantes. En élevant le niveau de conscience environnementale, les prochaines générations seront alors plus enclines à adopter des comportements responsables dans leur utilisation du web, théoriquement. contribuant ainsi à réduire la pression sur les ressources naturelles. Il est à noter que des efforts conséquents sont déjà réalisés depuis quelques années, par les GAFAM notamment, que ce soit simplement pour leur image ou avec une réelle envie de participer à la transition écologique, c'est poussé par les utilisateurs, sans attendre les décisions de la part des États, qu'ils cherchent à diminuer au maximum leur impact sur l'environnement, comme l'explique cette vidéo de France 24.
L'idée, c'est plutôt de verdir notre réseau en reliant ces data centers à des sources d'énergie renouvelables. Les géants comme Microsoft, Apple ou Facebook tous promettent d'ici peu 100% d'énergie renouvelable. Apple adosse des fermes solaires à ses data centers en Caroline du Nord, dans le désert du Nevada, et produit tellement d'électricité que la marque va revendre son surplus d'énergie produite. Mais il faut aussi être beaucoup moins gourmand en énergie. Alors pour refroidir ses data centers, Google s'est installé en Finlande, Facebook à 100 km du cercle polaire et Microsoft, eh bien, sous l'eau. Et ça n'est pas du greenwashing, de la belle peinture verte. Le très exigeant Greenpeace a mené l'enquête et voilà les résultats. Apple est classé A, fonctionne aujourd'hui à 83% aux énergies renouvelables et seulement 5% au charbon. Google et Facebook, eux aussi, sont notés A, Microsoft est coté d'un B. La pression des utilisateurs a fonctionné. En revanche, Twitter et ses 43% de charbon est classé F, mauvais élève aussi Amazon qui héberge notamment Netflix. Mais la tendance est bien réelle, les grosses entreprises d'Internet font donc aujourd'hui pression sur les États pour un accès plus facile aux énergies renouvelables. La révolution Internet va peut-être entraîner derrière elle la transition énergétique. Alors, l'ère numérique sera-t-elle écolo ?
Et si je ne me trompe pas, c'est la fin de ta partie, Rémi.
Exactement.
On va du coup passer à la dernière partie. Jacquiane, c'est toi qui prends la main. Et si je me fie à votre préparation, c'est le troisième axe dont vous avez choisi de parler, l'axe social. C'est à toi.
Ok, bonjour à tous et à toutes. Comme Caio a discuté avant, une grosse partie de déchets est provenue de composants électroniques, soit-ils serveurs, ordinateurs ou d'autres appareils. Les pratiques et habitudes que concerne ce terrain ont donc une grande influence dans les impacts environnementaux. Jetons alors un regard critique sur l'obsolescence programmée, une pratique qui influence nos vies quotidiennes de manière souvent insidieuse. Maintenant, nous allons écouter un petit extrait d'un article journalistique de l'agence France Presse, AFG, pour mieux comprendre cette problématique et bien ses conséquences.
Limiter la durée de vie d'un produit dès sa conception et programmer sa mort, telle est la stratégie économique dite de l'obsolescence programmée. Elle apparaît avec la production en série et la société de consommation. Parfait exemple de cette logique, chez Intel, leader incontesté des puces pour ordinateurs, les ingénieurs travaillent déjà sur la puce de la génération suivante, alors que la dernière n'est pas encore sur le marché. Même phénomène côté imprimante. Certains fabricants sont soupçonnés d'insérer une puce artificiellement programmée pour 18 000 impressions avant la panne inéluctable. Un procédé que dénonce Greenpeace en visant les baladeurs numériques de la firme Apple. Résultat dramatique de cette fuite en avant à l'échelle de la planète, bien souvent, ces équipements électroniques sont envoyés dans de gigantesques décharges à ciel ouvert, comme au Ghana. Or, leur recyclage permettrait non seulement d'éliminer des déchets néfastes à l'homme et à l'environnement, mais aussi d'économiser des matières premières dont les prix flambent régulièrement sur le marché mondial.
D'abord, après cette réplique, vous avez probablement remarqué que nos smartphones et autres gadgets électroniques semblent devoir être remplacés de plus en plus fréquemment. Cette tendance n'est pas seulement une coïncidence, mais plutôt le résultat de stratégies délibérées visant à raccourcir la durée de vie de ces produits. Une étude conjointe de l'ADEME et de l'ARCEP souligne la complexité de mesurer précisément cette durée de vie, ce qui met en évidence le besoin de collecter des données pour mieux comprendre l'impact environnemental du numérique. Cela nous semble un troisième chemin pour bien transitionner le web vers un secteur plus vert. Il est temps de se demander si, en tant que consommateurs, nous sommes involontairement complices de ce cycle de remplacement constant encouragé par des tactiques marketing. La bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de changer cela. en considérant la responsabilité qui nous incombe. La prolongation de la durée de vie de nos appareils devient une solution logique et urgente. Nous sommes tous d'accord. Alors, opter pour la réparation plutôt que le remplacement systématique n'est pas seulement un geste financier avisé, mais aussi un moyen concret de réduire notre empreinte environnementale. C'est un appel à réfléchir à notre relation avec la technologie pour construire un avenir plus durable. En parlant de durabilité, c'est important d'aborder la question cruciale de l'extractivisme. Nos choix de consommation, souvent guidés par des pratiques de marketing, contribuent à une demande constante de nouvelles ressources pour la fabrication de produits électroniques. Nous devons repenser alors notre approche et opter pour des alternatives telles que la réparation et les reconditionnements pour réduire cette demande. Enfin, ne négligeons pas la gestion responsable de déchets électroniques. Le recyclage peut jouer un rôle essentiel en récupérant des composants précieux et en limitant la quantité des déchets. Adopter ces pratiques conjuguées à une sensibilisation du grand public pour contribuer à préserver nos ressources et à réduire significativement notre impact sur l'environnement. Je crois alors que c'est vraiment crucial d'internaliser que c'est le moment d'agir collectivement pour un avenir où la technologie coexiste harmonieusement avec notre planète.
Et c'est la fin de notre réflexion. Et ce qu'il faut retenir de tout cela est qu'il devient évident que l'Internet et le web jouent un rôle crucial dans la société contemporaine, leur croissance étant une nécessité incontestable. Cependant, il est d'une importance extrême de comprendre l'impact de ce développement, notamment dans le contexte écologique, en raison de la demande significative en énergie et en matériaux nécessaires pour soutenir cette avancée. Ces paramètres complexes et difficiles à mesurer et à contrôler soulignent la magnitude du défi en question. Par conséquent, il n'existe pas de réponse simple à cette problématique complexe. En effet, atténuer l'impact environnemental du web tout en maintenant notre dépendance numérique actuelle et croissante. Cependant, diverses possibilités ont été explorées ici comme des solutions potentielles dans les domaines technologiques, politiques et comportementales, dont nombreuses qui sont à portée des mains. Ainsi, la recherche d'un équilibre entre le web et ses impacts environnementaux est un défi complexe et actuel. Sa solution ne semble pas pouvoir être unique, mais la compréhension de sa complexité et la prise en compte de différents secteurs devraient sans doute augmenter nos chances d'être conduites à cet objectif. En fin de compte, tout cela implique des efforts collectifs et une responsabilité pour enfin atteindre l'équilibre entre le web et ses impacts environnementaux.
Eh bien, merci à tous les quatre pour votre travail et votre intervention. Alors, on a plein de questions. On va en choisir quelques-unes. Il nous reste un petit quart d'heure si on a envie de discuter de tout ça. Alors, il y a pas mal de questions qui se recoupent un petit peu et que je vous propose de traiter collectivement. Par exemple, Félix demande, est-ce que c'est plutôt aux consommateurs de réduire leur consommation de produits électroniques ou est-ce que c'est aux constructeurs de changer leur façon de voir la production? Abdoul demande, est-ce que c'est les gouvernements et les systèmes éducatifs qui pourraient mieux collaborer avec les organisations qui émettent des rapports scientifiques pour rendre plus accessible aux plus jeunes les informations sur l'impact négatif du numérique. Donc on retrouve un petit peu cette dichotomie, est-ce que c'est plutôt côté consommateur d'être mieux informé ou est-ce que c'est aux constructeurs de changer leur manière de voir la production. On retrouve Noam qui affine un peu cette question en demandant quelle est l'importance, le poids des petits gestes individuels par rapport au grand combat politique dans la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc moi j'ai envie de reformuler un petit peu ces questions en vous demandant brièvement peut-être à chacun de donner votre vision des choses, bien sûr argumentée par rapport à ce que vous avez pu étudier et lire, de quelle serait la grande stratégie pour réduire les impacts environnementaux du web. telle qu'on ne connaît. Je ne sais pas qui veut commencer, je vous laisse prendre la main et puis donner un petit peu votre top.
Ok, donc je me propose pour commencer à répondre à cette question. Pour moi, il est plutôt clair que c'est des deux côtés qu'il faut que ça change. Surtout côté géants du numérique, parce que c'est eux qui détiennent les méga centers actuels. Mais il ne faut quand même pas négliger le poids qu'ont les utilisateurs, qui jouent un rôle tout à fait cohérent dans le combat écologique du numérique.
Oui, alors je pense qu'il serait utopique de croire qu'une simple décision politique suffirait à changer les choses. Après tout, si les grandes entreprises continuent à proposer à posséder des méga centers, c'est justement pour pouvoir héberger des sites de plus en plus complexes, de plus en plus attirants. Et donc si les consommateurs ne prennent pas conscience que tout cela a un impact et continuent de manger un peu toute cette qualité graphique, notamment, sans y mettre de restrictions, au final, ils ont également leur part à jouer. Et donc, je dirais que tout cela part des consommateurs pour avoir un impact ensuite sur les grandes entreprises, en rajoutant par-dessus des décisions politiques afin d'accélérer les choses et de gérer tout ça.
Eh ben, je pense que ça a été bien dit. Je suis d'accord avec tout.
Eh ben, on va passer du coup à quelques autres questions, plutôt sur la partie extractivisme, et puis on terminera sur des grandes questions. Alors, une question qui était plutôt destinée à Caio. Est-ce qu'il existe des données, donc c'est Elliot qui demande, sur le niveau de réserve de métaux rares, au même titre qu'il en existe pas mal aujourd'hui sur le pétrole, est-ce qu'il existe notamment un risque de pénurie ?
Ouais, je pense qu'il y a des chances de ça, et je pense que c'est en train de... Il y a déjà ça. Quand dans les dernières années, je ne sais pas, je pense que c'est 2 ou 3 ans avant, il y a des achats de composants électroniques pour faire des minérations des crypto-monnaies. Je pense que tu connais ce mouvement. Et tout, le prix de tout s'est augmenté pour ça. Parce que les extractions des matériaux, ce n'est pas, l'extraction, c'est pas suffisant pour comprendre tous les besoins des personnes. Et ça, c'est une chose actuelle. Donc, ça, c'est une période, mais probablement, ce n'est pas une question s'il y a des pénuries, mais la question c'est quand il va arriver, parce que c'est déjà arrivé ici, quand va finalement terminer tout.
Merci beaucoup, Caio. Peut-être une deuxième question pour toi, si tu as des éléments, ou Jacqueline, j'ai l'impression que vous avez tous les deux travaillé sur cette question. Donc c'est Sacha qui demande, on entend souvent des échos sur les conditions de travail difficiles qui seraient inhérentes à l'extractivisme, donc qui nécessitent, vous l'avez dit, des produits chimiques, des destructions massives d'environnement, et la raréfaction donc des ressources nécessitant d'extraire de plus en plus de pierres pour trouver des éléments. Donc bref, ces conditions de travail difficiles inhérentes à l'extractivisme, notamment visant le travail des enfants ou l'exposition à des éléments dangereux, et une sécurité qui n'est pas assurée par les endroits où ces ressources sont minées. Est-ce que c'est vrai?
Je n'ai bien sûr de ça, mais je pense que oui, parce que plus de matériaux qui sont extractivés maintenant sont dans les pays qui sont sous-développés. Et je pense que c'est un problème, ça, de faire la fiscalisation de tout ça dans tous les pays pour cet extractivisme. Donc, je pense que c'est un problème. C'est un problème aussi. C'est très difficile de faire une chose pour ça. Besoin d'une fiscalisation globale de beaucoup de pays différents pour essayer de faire ça. Donc, les pays de continent d'Afrique, par exemple, il y a ça, d'Amérique du Sud, par exemple. Donc, il y a aussi des minérations illégales. Donc, tout ça, c'est difficile de gérer. Et pour faire la production des électroniques, c'est difficile de comprendre tout où les sept matériaux qu'ils sont d'utiliser viennent. Donc, je pense que c'est ça pour moi.
Pour complémenter, je voulais parler aussi sur le fait que ces pays d'Amérique latine et tous les pays sous-développés ont souvent la responsabilité de prendre le relais des grandes entreprises qui ne recyclent pas forcément leurs matériaux et donc qui jettent tous leurs produits vers des pays en voie de développement afin de gérer la seconde vie de ces produits et qui, du coup, n'ont pas forcément d'autres alternatives qu'un déchet mal pensé ou mal planifié, en tout cas.
Alors, justement, à ce titre, on a beaucoup parlé, on entend parfois le terme « colonialisme des déchets » ou « colonialisme de manière générale » pour désigner cette tendance des pays ayant adopté un système de production capitaliste à forte croissance à externaliser toutes les conséquences sociales, environnementales négatives vers des pays qui n'ont pas cette manière de fonctionner. Du coup, ça embraye sur la question d'Eliott qui s'adressait à Rémi. Tu nous avais fait écouter, Rémi, un extrait qui présentait comment est-ce que certains géants du numérique faisaient pour diminuer. Alors là, on parlait plutôt d'empreinte carbone, notamment en utilisant des énergies renouvelables. Et Eliott demande, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à promouvoir l'utilisation de ces énergies renouvelables pour rendre le numérique plus écologique, alors que ces énergies sont justement dépendantes de l'extraction minière dont on a vu les limites tant en termes de santé, de pollution ou de pénurie. Donc pour la fabrication de ces outils de production d'énergie renouvelable, donc on peut penser aux métaux rares des éoliennes, au lithium des panneaux solaires, etc.
Alors effectivement, il y a certaines énergies renouvelables comme celles que tu as citées qui dépendent de l'extractivisme tout comme le web actuellement et les data centers. Mais on peut citer d'autres énergies renouvelables qui, elles, seraient peut-être plus adaptées à la situation, telles que les barrages. Ensuite, ce n'était qu'une voie possible, que l'un des éléments que nous avons cités, hein, ça ne suffirait pas à régler le problème entièrement. Effectivement, selon les énergies renouvelables qu'on va utiliser, le problème sera peut-être uniquement reporté. Mais il faut savoir aussi que d'autres énergies sont en cours de recherche, telles qu'on peut citer la fusion nucléaire, qui a fait d'énormes avancées dernièrement. Et donc on peut espérer que dans un futur lointain, puisque de toute façon la question de la pollution du web ne sera pas réglée dans quelques années, hein, clairement le problème est trop complexe comme on a expliqué précédemment. On peut espérer que d'autres énergies fassent surface afin de nous aider dans cette évolution.
Merci pour ta réponse, Rémi. Et puis, pour finir, ça va être du coup un ensemble de questions qui ont été posées. Auxquelles je vous invite à répondre. Alors là, c'est à la fois un petit peu de l'opinion, de la prospective et aussi sur les ressources que vous avez étudiées et lues. Et moi-même, je me fais un petit peu aussi l'écho de ces questions. Par exemple, pour la fusion nucléaire, alors on entend souvent dire que effectivement, si la fusion arrive à être développée, eh bien voilà, on aura une source d'énergie qui ne polluera plus. Mais n'empêche qu'il faudra toujours des ordinateurs et donc ça résoudra pas totalement le problème de l'extractivisme. Peut-être verrait-on un effet rebond là-dedans. Là, je sais pas, c'est un peu prospectif. Mais du coup, plus généralement, il y avait donc Maëlys qui demandait pourquoi tenter de concilier notre dépendance au numérique et nos impératifs écologiques ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt remettre en question notre dépendance au numérique ? Le fait d'utiliser le web dans toutes les sphères de nos vies, la dépendance croissante au numérique pour toutes les tâches, les interfaces graphiques toujours plus confortables et énergivores. Ça rejoint, je crois, une autre question de Maëlys qui avait noté que vous disiez que leur croissance, alors je ne sais plus de quoi on parlait, est-ce que c'était le web ou le numérique, mais était d'une nécessité incontestable. Est-ce que c'est vraiment d'une nécessité incontestable ou est-ce qu'on devrait remettre en question cette croissance effrénée? Arthur, tu notais que les entreprises devaient changer, mais est-ce qu'elles peuvent seulement changer dans un système justement où il faut faire de la croissance? Est-ce que les entreprises peuvent, pour leur modèle économique ou dans notre système de société actuelle, arrêter de produire en masse, arrêter l'obsolescence programmée au-delà du greenwashing? Et donc finalement, il me semble que l'ensemble de ces questions, c'est... Est-ce qu'il est seulement possible de concilier l'essor du web et les impératifs écologiques actuels ? Alors, je vous laisse, comme vous le souhaitez, répondre à cette question qui est finalement une des grandes questions du débat public aujourd'hui.
Pour moi, il faudrait tout d'abord repenser le système économique actuel parce que c'est sûr qu'il y a un très grand consumérisme dans le marché, mais qui dit consumérisme dit qu'il y a évidemment des clients. Donc il y a les entreprises d'un côté qui continuent à proposer ces produits chaque fois plus puissants, mais s'ils le font, c'est parce qu'il y a toujours une base, il y a un marché pour cela, et donc... il faudrait vraiment essayer de se détacher de ce modèle tant consumiste pour pouvoir résoudre la crise, à mon avis.
Alors oui, il ne faut pas oublier qu'on vit dans une société majoritairement capitaliste, hein, donc, où la croissance économique est la principale considération.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une bille là-dessus ou est-ce qu'on s'arrête là ? Caillou, Jacqueline, pas particulièrement. Jacqueline, tu veux dire un mot ?
Ça, c'est vraiment une question très importante de discuter. Et je pense que c'est important de que nous réfléchissions en nous-mêmes, en quelle habitude on doit prendre pour... Je sais pas.
Pour sortir de cette dépendance du numérique ?
Oui, c'est ça.
Réfléchir à la question des besoins ?
Oui, bien sûr.
C'est un petit peu ce que tu voulais dire ou c'est pas vraiment ça ?
Non, c'est ça.
Ok. Bon, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, on va bientôt s'arrêter là. Alors évidemment, hein, c'est vraiment une question difficile que vous avez eu à traiter ici, puisque... entre les diverses opinions de est-ce que le numérique doit continuer, est-ce qu'on peut concilier numérique et croissance, est-ce qu'il faut changer radicalement de modèle de société, est-ce qu'il faut tout débrancher et tout brûler, c'est vraiment extrêmement complexe. Rendez-vous, comme disait Stéphane, en IS3 pour une UV sur la low-technicisation du numérique pour prolonger cet échange. Il notait aussi, est-ce que c'est un marché auquel le système de production répond ou est-ce que le marché est créé par le système lui-même ? Un autre serpent de mer, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour terminer cette émission.
Merci papa, merci maman.
Et merci à vous pour votre travail et puis je laisse les auditeurs et auditrices méditer sur cette intervention stimulante au moins du point de vue de cette question complexe. C'était une phrase de bug de fin d'après-midi fatigué.
Merci de votre écoute.
Merci encore et bonne soirée à tout le monde. Salut.